France Culture.
La science CQFD, Natacha Trioux.
Comme chaque premier lundi du mois, on fait un tour dans les kiosques et on vous guide à travers le meilleur de la presse scientifique. En mai, que nous réservent nos publications préférées ? Au menu. Les méthodes phylogénétiques issues de la biologie sont appliquées aux mythes et aux contes. Comment cette approche nous éclaire-t-elle sur l'origine de nos monstres légendaires ? Puis, comment fonctionne la vessie humaine ? Et pourquoi cette envie pressante une fois arrivée devant un paillasson ? Ensuite, les gladiateurs de l'Empire romain se battaient-ils vraiment contre des fauves ? Et enfin, face à la destruction des sciences états-uniennes par Donald Trump, la France lance le programme Choose Europe for Science. Peut-on devenir une terre d'asile scientifique ? Mythique, gladiature, exil scientifique et fonction urinaire au clair de la une. Mathilde Fontaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, rédactrice en chef du mensuel Epsilon. Olivier Lascar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir. Sébastien Boller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Et bonjour Laurent Simon.
Bonjour, madame.
Vous êtes journaliste et cofondateur de The Meta News. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est sur notre compte @sciencesqfd. On commence avec le premier sujet du jour et le dossier d'Epsilon, la science des peurs humaines. Ou pourquoi certains monstres sont-ils toujours là après avoir traversé les âges ?
Le dragon d'Orient et le dragon d'Occident ne sont pas très très différents morphologiquement. Évidemment, dans chaque région, on utilise, je dirais, l'iconographie locale, on utilise les animaux qu'on connaît. Alors en Orient, on s'est plus servi d'animaux comme les grands varans, avec leur langue fourchue, qui dans le dragon oriental est représentée par des flammes souvent. À la base de toutes les légendes, il y a toujours une réalité. C'est un phénomène assez complexe, c'est le phénomène de la mythification. C'est que nous avons des structures mentales qui correspondent à certains de nos problèmes psychologiques et que nous symbolisons par certains archétypes, comme disait Jung, le dragon, la sirène, la licorne. Chacun de ces monstres se correspond à certains problèmes ou du sexe ou du moi. Et on fait entrer dans cette structure, qui est une simple structure mentale, tout ce qui est utilisable dans la nature.
Voilà un extrait de l'émission Animalia avec la voix du cryptozoologue Bernard Heuvelmann sur l'antenne 2 en 1991. Mathilde Fontaise, le dragon, c'est le monstre par excellence. Cette figure est très ancienne, c'est ce qu'on apprend dans le dossier Epsilon. Et c'est une figure qui est toujours présente dans nos imaginaires.
Oui, c'est ce qu'ont appris des chercheurs. Alors c'est d'ailleurs du dragon qu'on est parti pour monter ce dossier, hein, pour tout vous avouer, de cette figure mythique qui nous a intéressé. Pourquoi ? Parce que c'est une figure mythique éminemment culturelle qui est encore présente beaucoup aujourd'hui dans la fiction, mais aussi parce que c'est une figure monstrueuse et on avait choisi de s'intéresser aux monstres dès le départ. Pourquoi les monstres ? Parce que les monstres, c'est nos peurs en fait. Et donc dans les mythes qui mettent en scène des monstres, à chaque fois ce qu'on va mettre en scène, c'est nos peurs. Et donc ça, c'était un peu le point de départ de notre dossier, avec un mouvement de science qu'on a voulu raconter dans ce dossier, qui est celui d'une petite communauté de chercheurs qui grandit année après année, mais qui a seulement une dizaine d'années, et qui se penche sur ces mythes, puisque ça fait longtemps qu'on étudie les mythes, hein, ça fait longtemps qu'on sait que les mythes sont très anciens, ça fait longtemps qu'on sait qu'on retrouve des motifs un peu, disons, communs à différentes histoires qu'on a pu se raconter au coin du feu, que ce soit au temps des Grecs ou chez les Amérindiens, etc. Mais la dynamique qui nous a attirés dans ce dossier, c'est celle d'une communauté de chercheurs dont je parlais, qui s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas tous ces mythes avec ces méthodes qui ont été inventées pour la biologie et qui permettent de faire ces arbres phylogénétiques qui tracent en fait les ressemblances entre les différents êtres vivants et qui vont retracer comme ça un arbre du vivant. Et bien pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un arbre des mythes pour retracer toute leur histoire et c'est ça qui permet aujourd'hui de retracer l'histoire du dragon, mais pas que, l'histoire de l'ogre aussi, l'histoire des Amazones, on en reparlera, et comme ça de retrouver finalement toute l'histoire et d'en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui.
Cet arbre du vivant, ça fait tout de suite penser à Aristote qui considère le mythe comme un être vivant, donc à partir de là, pourquoi ne pas les étudier comme s'ils étaient des êtres vivants?
Oui, cette conception d'Aristote était un peu prémonitoire, mais là c'est vraiment purement factuel, hein, c'est comment ils procèdent, c'est une base de données, alors énorme, hein, qui a été constituée par un chercheur en particulier qui s'appelle Yuri Bereskin, qui est russe, et qui a constitué comme ça un catalogue, là, il appelle ça catalogue analytique de la mythologie et du folklore mondiaux. Il est mis à jour chaque année et il va rassembler des textes issus de 1000 traditions différentes. Et en fait, ce que font les chercheurs, c'est qu'à partir de ces textes, ils vont isoler alors soit des mots, soit des ensembles de mots, hein, par exemple des motifs comme le monstre tue les villageois, c'est l'exemple qu'on prend dans le dossier, il y en a plein d'autres. On va déterminer comme ça des unités de base de ces récits, un petit peu comme qu'on va établir des unités de base d'un organisme vivant. Et ensuite, on va appliquer à cette base de données toutes les méthodes statistiques de la phylogénétique qui permettent de classer les êtres vivants, donc des matrices de distance, des méthodes de parcimonie, des méthodes bayésiennes. Je dis des termes techniques parce qu'on est vraiment là dans une approche scientifique, alors qu'a pas inventé le processus d'analyse des mythes, hein, je le répète, il y a des spécialistes des mythes qui travaillaient avant ça et qui pouvaient comparer comme ça quelques mythes les uns par rapport aux autres et retracer un peu leur évolution, mais pas à cette échelle-là, pas à l'échelle de dizaines ou de centaines d'histoires différentes qui vont avoir été racontées pour certaines dans la Grèce antique, pour d'autres chez les aborigènes, je l'ai dit, pour d'autres en Eurasie, au Moyen-Âge, et comme ça rapprocher finalement ces histoires, et après tracer des arbres, donc c'est-à-dire comment est-ce que ces histoires vont avoir évolué au fil du temps, et choisir parmi les milliers d'arbres qui vont être tracés par cette méthode statistique le plus probable, et pouvoir comme ça remonter à l'origine, voire même pouvoir essayer de retracer des branches pour lesquels on n'a pas retrouvé de récits dans les traces archéologiques, mais qui semblent exister, puisque sinon on ne pourrait pas aller de, par exemple, je ne sais pas, le récit du petit chaperon rouge en Eurasie pour retrouver le même récit chez les aborigènes. Il nous faut forcément une étape au milieu. Donc voilà, on retrace comme ça toute l'évolution du récit. Et donc le petit chaperon rouge, ça a été l'un des premiers pour lesquels cette méthode a été appliquée. On s'est bien amusé dans Epsilon à en passer tout le tableau en fait récapitulatif de tous les motifs et comment est-ce qu'ils ont été classés. Donc c'est un gros tableau qu'on a mis en couleur, comme on fait avec les codes génétiques, en fait, hein, et qui permet de suivre Grimm-Perrault, puis après la version portugaise, la variation française, la variation italienne, etc., tous en fil. Et en fait, avec ça, eh bien, on parvient à retrouver l'évolution du petit chaperon rouge, continent après continent, et au fil des migrations humaines, puisque c'est ça le résultat. C'est que le résultat de ça, c'est de voir que certains mythes se sont propagés depuis l'origine presque de l'homme, c'est-à-dire avant la sortie d'Afrique, et ont pu après suivre, on les voit en fait suivre, toutes les migrations humaines pour gagner l'Eurasie d'une part, et puis après le Pacifique, et puis remonter en Amérique souvent plus tardivement, et comme ça se propager en évoluant bien sûr, comme évoluent les êtres vivants.
Le mythe du petit chaperon rouge qu'on suit comme ça, on a presque l'impression de suivre des mutations génétiques au gré du temps, enfin pour continuer et prolonger cette métaphore. Et on voit aussi que les mythes suivent des lois darwiniennes. C'est ce qu'on apprend également à la lecture.
Oui, les mythes s'adaptent aux contraintes de l'environnement quelque part. Et donc ils vont évoluer en fonction, par exemple, des animaux qui vont être présents. Il y a un mythe intéressant qui est celui de l'ogre qu'on détaille dans le dossier, qui est un mythe qui est très présent et qui est celui qu'on a mis en valeur nous pour décrire les métamorphoses des mythes et les métamorphoses par là de la représentation des peurs. Ce mythe-là, il y a une des versions qui est une version africaine de l'Ouest et qui met en scène une calebasse, une sorte de courge en fait. Et le mythe, c'est que la calebasse va rouler et dévorer tout ce qui va passer sur son passage. Et puis après, elle va devoir être quelque part attaquée par des héros qui auront vaincu la calebasse, pouvoir faire ressortir de la calebasse toutes les créatures qu'elle aura ingurgité. Ce mythe-là, au départ, on pensait que c'était un mythe purement africain, et grâce à ces méthodes, on a pu retracer qu'en fait, non, c'est une variante de l'ogre qui a pris cette forme de calebasse en Afrique, et qui après a repris une forme humanoïde parfois en Afrique, mais parfois aussi une forme de montagne, une forme de rocher. Et en fait, tout ça, c'est la même histoire. Tout ça, c'est l'histoire de la peur de la dévoration. Tout ça, c'est cette histoire-là, elle s'est propagée et elle s'est adaptée à l'environnement pour prendre la forme d'une calebasse en Afrique ou d'un ogre plutôt en Eurasie, qu'on connaît mieux nous que la calebasse et qui nous fait peut-être plus peur parce qu'on partage plus cette culture. Mais c'est la même chose, c'est le même mythe. Simplement, il s'est métamorphosé, il a évolué en fonction de l'environnement.
On apprend également que le cyclope que rencontre Ulysse n'est qu'une version grecque d'un mythe qui remonte à la vague néolithique européenne, il y a environ 8500 ans. Et puis, pour revenir à notre dragon, on pensait qu'il y avait plusieurs apparitions spontanées de ces figures, mais ces méthodes montrent justement l'inverse.
Oui, ces méthodes montrent qu'il nous accompagne depuis la sortie d'Afrique, donc il y a 50 000 ans. Ensuite, il s'est propagé vers l'Asie et vers l'Océanie. Là, il a été digéré en quelque sorte par les aborigènes. Et il est remonté sur les côtes pacifiques jusqu'en Amérique, dans l'hémisphère nord, il y a 10 000 ans. Alors à chaque fois, il prend des formes différentes, hein, on l'a dit. Donc là, le dragon, c'est ou un dragon ou un serpent d'eau. C'est un animal, enfin un monstre, qui va être en lien toujours avec l'eau. Il va garder les points d'eau, il va voler. Parfois, il va former des arcs-en-ciel. Parfois, il va posséder des cornes. Parfois, non. Produire de la pluie, des orages, en bref. Et donc, toutes ces variantes, en fait, vont constituer, quelque part, une matérialisation de notre peur originelle, dès le départ, du déluge de l'eau, en fait. L'eau, ça tue, ça submerge, on s'y noie. Et donc, depuis l'origine, depuis il y a 50 000 ans, on a peur de l'eau, on met en place des récits qui vont viser à la fois exorciser quelque part cette peur qu'on va tous ressentir, mais aussi constituer une sorte de norme, un enseignement pour les jeunes et dire attention, méfie-toi de l'eau, ne va pas dans la rivière, tu vas te noyer, etc. Ou faites attention si vous voyez les signes d'un déluge à venir, il faut se protéger puisque... Et donc ces récits-là, c'est à la fois une manière d'exorciser les peurs, de les rendre représentées, de les parler, et c'est aussi à la fois une manière de former des précautions, disons, collectives qui vont être transmise année après année, génération après génération. Et donc c'est seulement à la fin de cette trajectoire de l'histoire du dragon, je finis, puisque nous, ce qui nous concerne, nous, c'est quoi? C'est le dragon et le chevalier qui va tuer le dragon, etc.
Ces histoires de tueurs de dragons, voilà. Cette figure de courage.
C'est ça, et donc ça apparaît finalement assez tardivement dans l'histoire du dragon, plutôt en Eurasie, et donc c'est l'apparition donc, de ces récits de héros avec le chevalier qui doit tuer le dragon. Et là, le dragon, du coup, devient finalement, non plus simplement une peur, mais un faire-valoir. C'est-à-dire que là, la peur est dépassée quelque part et elle est plus vive. Enfin, et on raconte l'histoire pour mettre en valeur le héros. C'est une forme. Mais ça reste une boussole morale. Et ça reste une confrontation, toujours, le dragon avec le monde. Et c'est une confrontation qui est plutôt violente, quoi, dans l'idée.
Toujours à propos de boussole morale, et on terminera avec cet exemple, un autre monstre, entre guillemets, alors pas dans le sens grotesque ni féroce, mais plutôt dans un sens symbolique, les Amazones, qui sont présentes partout, même en Amazonie.
Oui, alors ça, c'était une belle découverte aussi qui a été faite par cette méthode, hein, et par en particulier Julien Duit, qui travaille en collaboration avec le Collège de France et qui a retracé comme ça l'histoire du mythe des Amazones. Donc je rappelle ce que c'est que le mythe des Amazones, c'est une société matriarcale où les femmes dirigent, et elles dirigent à tel point qu'en fait elles vont tuer les hommes ou alors en faire les esclaves, elles vont tuer leurs enfants mâles ou en faire leurs esclaves, et puis à la fin ça se passe mal, finalement il faut attaquer les Amazones et les transformer en animaux ou les tuer parce qu'elles sont absolument affreuses et qu'il faut les... Voilà. Et donc cette histoire a pris plein de formes à divers moments, on en a même recherché, on en recherche sans cesse des traces archéologiques de ces sociétés purement matriarcales, mais en fait elles sont toujours racontées sous cet angle-là, c'est-à-dire celui de, c'est pour ça qu'on parle de monstre aussi, sous celui d'une société qui va forcément mal tourner, et qui va forcément, l'interprétation derrière qu'en fait Julien Duit, c'est de dire que cette histoire, finalement, elle a été mise en scène pour instrumentaliser la peur, c'est-à-dire pour faire peur à tout le monde d'imaginer une société qui serait dirigée par les femmes, puisque forcément ça se passerait très mal. Et donc cette histoire des Amazones est en fait une histoire qu'on se raconte pour asseoir la domination,
légitimer la hiérarchie,
légitimer la hiérarchie en place, et donc celle des hommes. Et c'est pour ça qu'elle a été comme ça répandue et qu'elle s'est diffusée, pareil, hein, dans le monde entier, sous de différentes formes.
Voilà, je vous cite, c'est là toute la beauté de cette phylogénie des monstres. En remontant à leur origine, en retraçant leur histoire, on comprend mieux pourquoi ils sont toujours là. On continue notre tour de l'actualité scientifique. Nous avons des preuves que durant l'Empire romain, les gladiateurs affrontaient bien des fauves, et ce n'est pas un mythe.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, comme chaque premier lundi du mois, c'est notre club actu. On poursuit avec Science et Avenir qui nous présente une découverte faite en Grande-Bretagne et qui nous éclaire sur la vie et sur la mort des gladiateurs sous l'Empire romain au IIIe siècle.
Engagés ensemble, quand nous savons qu'on est arrivé à inventer d'année en année des formes nouvelles de gladiatures, jusqu'à en trouver une quinzaine, et la liste n'est pas complète, avec les choses les plus infâmes, quand on pense que Néron a offert au roi d'Arménie le combat de gladiateurs nègres, que Commode a inventé de faire lutter des gladiateurs nains contre des gladiateurs femmes. Bien, je crois que tout de même, ce sont des choses historiques, celles-là.
Et le gladiateur qui ne voit pas.
Et qui ne voit pas, le gladiateur aveugle.
Le gladiateur aveugle.
Qui allait à tâtons sur l'adversaire.
Le casque sans visière.
Ouais. Ah oui. Et les gladiateurs qui combattaient avec des lances, ceux avec des arcs, ceux qui combattaient sur un chat, il y a eu une imagination perverse qui s'est appliquée constamment au profit de ces jeux cruels.
Un extrait de regard sur l'histoire et la délectation de l'archéologue Henri-Paul Hédoux sur l'ORTF en 1975. Olivier Lascar, l'imagination perverse des Romains, comme on entendait dans cette archive, dans les amphithéâtres, on ne se contentait pas de duels à l'épée.
Non, et pas au fleuret moucheté en tout cas. Hein. Effectivement, la diversité des combats était très importante et elle est venue jusqu'à nous grâce à une iconographie, grâce aux représentations sur les céramiques, sur les mosaïques. Des pièces d'époque ont été découvertes par les archéologues et elles ont fructifié dans l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui, dans le cinéma. C'est passé évidemment par la peinture. La journaliste Sarah de la Cerda, qui signe ce papier qui est disponible sur le site web de Science et Avenir, cite par exemple les tableaux de Léon Gérôme, un peintre français de la fin du 19e siècle, qui donne de grands tableaux d'un style assez pompier, mais absolument frappant, où l'on voit par exemple la dernière prière des chrétiens dans l'arène qui vont être donnés en pâture aux lions qui sortent des entrailles de l'arène. Donc cet imaginaire, il est très installé. Néanmoins, on n'avait pas encore de preuves physiques, si je puis dire, non pas dans la chair, mais dans les os de ces défunts gladiateurs ou de ces défuntes victimes des fauves dans l'arène, des fauves ou des bêtes sauvages. Hein, parce que en l'espèce, on a trouvé un corps avec des traces de morsures de lions, mais ce sont bien des ours, même des sangliers hein, qui étaient utilisés dans les arènes.
Alors des morsures de fauves, maintenant c'est chose faite. On a cette preuve-là grâce justement à cette parution dans PLOS ONE, où ces chercheurs ont étudié dans un cimetière de gladiateurs romains en Grande-Bretagne ces ossements. Alors déjà peut-être un petit mot sur le site de la découverte.
Oui, alors c'est en Grande-Bretagne, effectivement. C'est à York, dans la banlieue de York, dans un lieu qui s'appelle Driffield Terrace, qui a été mis au jour il y a déjà un petit peu de temps, hein, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant. Et depuis 20 ans, les archéologues ont eu la possibilité de dresser un petit peu le portrait des personnes qui sont enterrées là, parce qu'on a trouvé jusqu'à 82 corps. D'hommes jeunes, athlétiques, portant des blessures très particulières, beaucoup à la face, les dents, le crâne, la main droite. En tout cas, des stigmates qui prouvent que, durant leur vie, leur activité a sans doute été celle de combattants, mais non pas de soldats, plutôt de combattants dans l'arène et qui ont porté dans leur chair les traces de cette activité qui a eu le temps de cicatriser. Donc ces 80 morts ont été scrutés par les spécialistes et parmi eux, il y a un jeune homme, enfin il est mort entre 26 et 35 ans, et il avait au niveau, son squelette apporte au niveau des hanches, des traces très particulières qui sont de perforation. Hein. Et le bassin a été scanné en 3D et analysé en croisant les données de ce que donne la morsure de différents types de prédateurs qui pouvaient être utilisés dans les arènes.
Donc tout type de prédateurs, hein, ours, phacochères et lions.
Et lions. Et effectivement, c'est avec le lion que les traces sont le plus compatibles. Alors quand on voit les photos dans l'article sur le site de Science et Avenir, on voit très bien, hein, ces deux perforations qui montrent que la personne a été mordue. Elle a sans doute été, c'est ce qu'estiment les archéologues, traînée sur le sol de l'arène, mais elle n'a pas été dévorée. Et elle n'a pas été tuée par le lion. Elle a été sans doute tuée par décapitation, ce qui se pratiquait dans ce type de contexte pour abréger les souffrances du malheureux. Cette décapitation, elle est également attesté par la façon dont ces corps ont été enterrés, parce que nombre d'entre eux sont enterrés avec la tête décollée du reste du corps.
Oui, c'est ça, c'est que c'est une autre particularité physique de ces restes, c'est que la plupart des hommes de ce cimetière ont été décapités.
Oui, alors c'est un élément qui est finalement assez intriguant, parce que les spécialistes savent par ailleurs que les gladiateurs... Alors je dis gladiateurs, je devrais pas dire que gladiateurs, parce que suivant leur activité dans l'arène, on parle de bestiaires, pour parler de ces hommes ou de ces femmes qui devaient affronter des animaux, ou de vénators, pour parler de ceux qui simulaient des sortes de chasses. Ils étaient aussi contre des animaux, mais l'idée c'était qu'ils devaient plutôt les chasser. Et on peut faire le distinguo entre ces différentes activités. Mais en tout cas, les gladiateurs, au moment de leur mise à mort, quand le commanditaire du spectacle, hein, qui pouvait être l'empereur, mais dans une province éloignée comme celle dont on parle, à York, en Grande-Bretagne, ça aurait pu être l'empereur, pensent les archéologues, parce que un lion était impliqué dans ce spectacle, alors que, évidemment, le lion en Angleterre, on n'en trouve pas sous les sabots d'un cheval, quoi. Mais le gladiateur, lorsqu'il est mis à mort, vous savez, par le fameux pouce baissé, c'est plutôt par le poignard. Enfin, il est égorgé ou poignardé, mais généralement, il n'est pas décapité. Donc, cette décapitation qui s'est pratiquée en nombre sur les corps qui sont enterrés à York est un élément intriguant qui met un peu le doute sur le fait que ça a pu être effectivement un gladiateur. En tout cas, ça pouvait peut-être être une personne mise à mort dans l'enceinte de la reine, mais en tout cas, elle est passée par la reine et elle est passée sous les crocs du lion.
En tout cas, on ne saura donc pas très précisément quel était le rôle exact de cet homme qui s'est fait grignoter par un lion. Et en effet, ce lion, c'est peut-être la chose qui interpelle le plus les chercheurs. Un lion en Angleterre, qu'est-ce qu'il venait faire là, ce lion?
Oui, et c'est ce qui montre que cette colonie, cette ville de garnison, hein, comme était York à l'époque, devait être une ville de très grande importance. Cette découverte de la morsure du lion, c'est aussi une façon d'asseoir l'importance de cette ville de York qui s'appelait à l'époque Eboracum, à l'époque romaine. Et le lion est peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, la preuve que l'empereur lui-même aurait pu assister au massacre, ou que le spectacle aurait pu être fait en son nom par le politique ou le gouverneur de haut rang qui aurait été aux commandes de ce spectacle morbide.
Donc c'est une découverte qui nous en apprend plus sur la vie et la mort des gladiateurs, mais aussi sur donc cette ville, cette ancienne Eboracum, Olivier Lascara.
Oui, de toute évidence, elle avait des liens privilégiés avec l'Afrique du Nord. C'est ce qui pourrait expliquer que le lion ait été convoyé jusque-là. Mais on a aussi trouvé, en d'autres circonstances, à Eboracum, donc à York, des céramiques dont on sait qu'elles sont produites spécifiquement dans l'actuelle Tunisie. Et on sait aussi que Eboracum se fournissait en huile qui provenait de l'actuelle Tunisie. Donc ces liens... d'un point à l'autre de l'Empire romain entre Eboracum et les deux rives de la Méditerranée apparaît dans cette étude, qui est quand même, au-delà du portrait qu'elle permet de tracer de cette ville de garnison, la première preuve physique d'un combat, d'un affrontement entre l'humain et l'animal dans le contexte de l'arène.
On continue de feuilleter nos magazines scientifiques. Comment le cerveau intervient-il pour contrôler ou non la vessie? Quelle est la neurobiologie de la fonction urinaire? Restez à l'écoute. Sur France Culture, car nous parlons dans ce club actu de monstruosité. Entre autres, on en parle avec Mathilde Fontaise, journaliste scientifique, rédactrice en chef du mensuel Epsilon, Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir, Sébastien Boller, docteur en neurosciences et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, et Laurent Simon, journaliste et cofondateur de The Meta News. On passe à présent à notre troisième sujet. On se saisit du dernier numéro de Cerveau et Psycho avec un dossier, incontinence et envie pressante quand le cerveau parle à la vessie.
L'incontinence, c'est très simple. La raison pour laquelle on est incontinent peut être résolue en deux questions. Est-ce qu'on est incontinent tout le temps ou pas? Si c'est tout le temps, c'est les rares causes d'incontinence dues à un sphincter trop faible. Mais la plupart du temps, on est incontinent pas tout le temps. Et quand on est incontinent pas tout le temps, il y a des circonstances dans lesquelles on perd ses urines. Ça définit la fuite à l'effort, lorsque la fuite survient lorsqu'on fait un effort même minime, ou le complémentaire, la fuite par impériosité. C'est-à-dire c'est une fuite qui arrive lorsqu'on a une envie pressante d'uriner et on ne peut pas se retenir.
Voilà un extrait de l'émission Savoir Plus Santé. Michel Avrous, urologue à l'hôpital La Péronie de Montpellier sur France 2 en 2004. Sébastien Boller, on apprend dans ce dossier que le syndrome de la vessie hyperactive, c'est plus d'un adulte sur 10 qui souffre de ce syndrome.
Oui, c'est énorme. C'est un adulte sur 10. Et après, par exemple, chez les femmes ménopausées, c'est 45%. Donc ça concerne énormément de monde. Et la grande nouveauté, c'est que on s'aperçoit depuis quelques années, parce que c'est des recherches quand même assez récentes, je pense que l'extrait qu'on a entendu là ne tenait pas encore compte de ces découvertes, que la vessie n'est pas ce qu'on pensait être, c'est-à-dire un organe autonome qui se vide par réflexe, mais que c'est un organe connecté. C'est vraiment un organe high-tech qui a des connexions neuronales avec beaucoup d'organes, et notamment le cerveau. Et c'est là que on commence à parler d'un axe cerveau-vessie, comme il y a eu la mode, c'est un fait aussi, du cerveau-estomac, cerveau-intestin, avec la découverte du microbiote. Quand on a commencé à dire que l'intestin était notre deuxième cerveau, ben on est en train de se dire que peut-être la vessie est un troisième petit cerveau assez rudimentaire, mais quand même.
On va voir dans quelques instants comment cet axe fonctionne, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous nous dites que c'est un sujet de recherche assez récent. Pour quelle raison? Puisque le sujet n'est pas sexy, entre guillemets.
Non, mais on s'est satisfait pendant longtemps de la vision de la vessie comme un organe autonome, parce que c'est vrai qu'on imagine c'est simplement un ballon. Enfin, c'est un sac, hein, c'est avec ça qu'on a fait les premiers les outres, les ballons de football. C'est un sac qui a une capacité d'extension extraordinaire, puisque son volume est multiplié par 6 entre l'état vide et l'état plein. Donc c'est l'organe qui se détend le plus dans tout le corps et qui se prêtait bien à la vision. Voilà, il y a une jauge un petit peu comme sur un réservoir intelligent, et une fois que la jauge est atteinte, ben, ça se vide. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui a fait qu'on a pu commencer à accéder aux détails de tout ça, ben, c'est les progrès aussi dans toutes les techniques d'imagerie cérébrale, y compris au niveau cellulaire.
Alors, en effet, on commence à un peu mieux comprendre cet axe-là. Comment ça fonctionne? Par exemple, ce qui déclenche une miction? On voit que c'est un réseau complexe de régions cérébrales, mais que c'est aussi un réseau très sensible.
Oui, alors, il y a d'abord la vessie elle-même, qui en fait est un sac qui est une paroi dans laquelle il y a un muscle. Le muscle s'appelle le détrusor. Et donc, il a la capacité de se détendre. En fait, quand on boit toute la journée et qu'on ne va pas aux toilettes, il se détend tout à fait naturellement. On le sent presque pas. Et puis, à un moment donné, il se déforme forcément. L'extension du muscle va étirer certaines fibres à l'intérieur et notamment des mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, c'est en fait des molécules qui ont une structure en triple hélice, c'est magnifique à voir en microscopie, qui va se déformer et provoquer l'entrée dans certains neurones d'ions, donc d'atomes chargés, qui vont donner lieu à la naissance de potentiels d'action, c'est-à-dire des courants électriques qui vont remonter ensuite depuis les neurones de la vessie jusqu'au cerveau. Et ça va passer par différents relais. Il y a un premier relais dans le tronc cérébral, c'est-à-dire la zone intermédiaire entre la moelle épinière et le cerveau. Et ensuite, du tronc cérébral, ça va remonter jusqu'à un repli de notre écorce cérébrale qui s'appelle l'insula, qui est un centre, en fait, l'interoception. Vous savez, le sens qu'on a de son propre intérieur, des tiraillements, des pressions aux articulations, les mouvements des viscères. L'insula, elle capte tout ça. Donc, elle va capter les informations du détrusor étendu de la vessie qui lui dit, attention, ça commence à se remplir. Et ensuite, l'insula va acheminer ses messages jusqu'au grand commandant suprême du cerveau, à l'avant du cerveau, le cortex préfrontal, qui lui, il est capable de faire plein de choses, il est capable de se retenir par la volonté, il est capable d'élaborer des stratégies, et puis il tient compte aussi du contexte social. C'est-à-dire que c'est lui qui va observer, c'est-à-dire est-ce que je suis dans une situation où il serait acceptable d'aller uriner. Et donc si vous êtes dans un repas de gala et que ça fait une heure que vous avez envie, le cortex préfrontal il va dire non mon coco, celui-là tu gardes la vessie au frais, puis on verra tout à l'heure. Mais évidemment c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on sait que dans certaines maladies neurodégénératives par exemple, le cortex préfrontal peut être altéré et donc cette prise en compte des données sociales peut être perturbée. On sait que par exemple dans les démences frontotemporales, c'est caractérisé par des gens comme vous et moi, s'ils sont atteints de ce type de démence, qui d'un seul coup ont envie d'uriner dans un repas de famille et qui se lèvent et qui vont faire pipi contre le mur devant tout le monde. Donc c'est ça qui fait que les données sociales parfois ne sont plus tellement intégrées.
En tout cas, c'est ce parcours-là, ce fonctionnement neurobiologique qui explique ce passage d'un mode stockage à un mode de libération. C'est ça?
Voilà, il y a un mode libération qui dépend d'un petit centre très précis dans le pont, c'est-à-dire la zone du tronc cérébral qui a le dernier commande sur la libération de la vessie. Et évidemment, toutes les connexions cérébrales tout le long de cet axe sont très importantes. Et elles sont en général intactes pendant la plus grande partie de la vie, mais en fonction de lésions qu'on peut avoir, de lésions traumatiques, d'accidents ou de maladies neurodégénératives, ces connexions peuvent être fragilisées et à ce moment-là, on tombe sur toutes sortes d'incontinences, de pannes en fait de ce système. Et là, il faut envisager des moyens d'agir. Alors, il y en a plusieurs. Il y a des moyens médicamenteux où on va par exemple administrer des antimuscariniques, c'est-à-dire des composés qui vont aller contre l'action de l'acétylcholine qui provoque la contraction du détrusor de la vessie. On peut parfois même mettre du botox dans le muscle détrusor pour le détendre, pour qu'il puisse de nouveau accepter de se détendre au cours de la journée, parce qu'il y a des personnes qui ont une vessie hyperactive, c'est-à-dire qu'il se contracte sans arrêt. Ce qui fait qu'on va se lever avec 3, 4, 5 fois par nuit et qu'on n'a pas beaucoup de solutions contre ça.
Alors par rapport justement à ces troubles urinaires, quels sont justement, dans quel cas on a des parties de la chaîne qui bug, qui ne fonctionnent plus? Donc en effet, il y a les lésions de la moelle épinière aussi déjà.
Lésions de la moelle épinière, alors là oui, ça c'est effectivement c'est assez dramatique. Pour ça, il faut mettre en place des cathéters ou alors porter des protections. Mais comme je le disais, le vieillissement cérébral peut toucher différents étages de cette chaîne de contrôle et donner lieu, avec l'âge, on le voit, hein, il y a un continuum en fonction de l'âge, il y a de plus en plus de couches de la population qui vont être touchées. Et le point aussi très sensible de cette histoire-là, c'est que ça nous montre que la vessie n'est pas du tout un organe idiot et ça permet aussi de répondre à de très vieilles questions. Par exemple, le syndrome de la clé dans la porte.
Ah, le syndrome du paillasson.
Oui, le syndrome du paillasson, c'est des gens que vous revenez du travail, vous avez une petite envie, vous vous retenez depuis un moment, vous sortez la clé de la poche, et de votre poche, vous allez ouvrir la porte, et là, ça devient impossible de se retenir, tout semble se libérer d'un seul coup. Et là, c'est lié à un apprentissage, en fait. Votre cerveau est intelligent, il a pris l'habitude de constater qu'en général, quand vous sortez la clé, ben, quelques secondes après, vous pouvez aller aux toilettes. Ben, si jamais il libère un peu trop tôt, vous êtes bien embêté. L'autre paradoxe qui n'avait jamais été expliqué par les urologues dans l'ancienne école, c'est pourquoi, dès que vous entendez de l'eau couler, par exemple, un robinet, hop, ça donne envie de faire pipi. Là, il semblerait que ce soit le cerveau social qui, en permanence, se demande « est-ce que là, je suis dans une situation où ce serait socialement accepté de faire ?» Et que, en fait, traditionnellement, quand les autres font, ça veut dire qu'on peut aussi. Donc, dès qu'on entend un jet, il l'interprète comme le fait que quelqu'un, peut-être aussi, dit « bon, c'est bon, on peut y aller, les amis ». Donc, tout ça permet d'intégrer le cerveau avec la vessie et de faire de cet organe, en fait, une partie de notre humanité.
Vous parlez d'apprentissage. En effet, c'est dès l'âge de 3 ou 4 ans que les régions cérébrales responsables de la conscience sociale et de la prise de décision justement le relais pour déclencher une miction, c'est ça?
Oui, voilà, c'est l'âge où effectivement le cerveau social de l'enfant commence à intégrer un certain nombre de données de son environnement social et également où son cortex préfrontal commence à maturer. Parce que vous savez peut-être qu'en fait c'est la partie du cerveau qui mature le plus longtemps possible dans la vie. Il n'est pas fini avant 21, 22 ans et parfois plus tard. Donc chez l'enfant à 3 ou 4 ans, le cortex préfrontal il est très très faible. Il a encore beaucoup de difficultés à se retenir. Et plus on va inciter l'enfant effectivement à durer, à attendre, à patienter, plus on va renforcer ses connexions entre le cortex préfrontal, l'insula et la vessie, et donc lui donner plus de contrôle sur ses envies.
Alors comme vous l'avez dit, à peu près 45% des femmes de plus de 60 ans souffrent de vessie hyperactive. On vient aussi d'évoquer quand même les limites des traitements disponibles actuels. Quelles sont les pistes thérapeutiques à l'étude ?
Alors, la dernière piste thérapeutique, c'est d'agir sur ces fameux récepteurs mécanosensibles dans le muscle de la vessie, puisqu'on a eu le moyen d'obtenir leur structure tridimensionnelle en microscopie électronique récemment. Ce sont des vrais objets d'art, ce sont des triples hélices extrêmement complexes, des protéines à très très haute masse moléculaire, mais dont on peut vraiment observer le mouvement. Elles se tournent comme ça dans leur logement, dès que le muscle détrusor se détend, et il arrive qu'elles aient par exemple des mutations. Donc un aspect génétique des incontinences ou des problèmes urinaires qui fait l'objet d'exploration aujourd'hui en épidémiologie génétique des populations. Et on peut voir que dans certains cas, il y a cette mutation. Et que dans certains cas, donc, il va s'agir, si possible, de cibler ces mécanorécepteurs dans le muscle détrusor par des composés qui vont faire l'objet d'un drug design. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout récent. Donc on va attendre les résultats.
C'est aussi une des pistes qui est celle d'un système optogénétique sans fil, c'est ça ? Parce que je lisais ça aussi dans ce dossier sur comment intervenir sur ces mécanorécepteurs. Et y a justement, c'est aussi à la pointe de certaines méthodes comme l'optogénétique.
Alors l'optogénétique, c'est surtout pour l'instant un outil de recherche puisque ça permet de détailler en fait les voies neuronales qui sont impliquées dans certains comportements ou certains réflexes en activant certains neurones et pas d'autres avec des rayons laser qui vont provoquer des transitions moléculaires de certains récepteurs dans les neurones et donc activer les neurones sur commande. Et donc c'est comme ça qu'on a pu retracer effectivement tout le chemin neuronal, fibre par fibre, depuis la vessie jusqu'au cerveau et vice-versa. Alors effectivement, le mieux, ce serait un jour d'avoir un implant laser pour vaincre une fuite urinaire sur commande si un jour on arrivait à utiliser l'optogénétique. Mais on en est très loin parce que ça suppose d'exprimer dans les neurones certains variants de certains récepteurs et ça suppose de la thérapie génique. C'est une des autres pistes d'ailleurs qui est explorée, mais on est encore loin du compte.
On poursuit avec notre quatrième sujet de ce Club Actu. À une heure où chercheurs et universités américaines sont dans le collimateur de l'administration Trump, la France peut-elle devenir une terre d'asile scientifique ? Comment accueillir les talents scientifiques venus de l'étranger ? Restez à l'écoute.
France Culture. La science CQFD. Natacha Triou.
Direct sur France Culture pour notre Club Actu. Depuis plusieurs mois, Donald Trump massacre la science aux États-Unis. De plus en plus de chercheurs américains songent à quitter le pays.
En même temps qu'il y a ce retrait des pages en ligne, il y a également un gel des budgets. Il y a une réduction drastique également des frais de fonctionnement, ce qu'on appelle les overheads, c'est-à-dire la façon dont l'État fédéral finance le fonctionnement des agences. Et puis, il y a également tout simplement les licenciements. Là, on est en train d'observer depuis le début février une vague de licenciements qui touche en priorité les jeunes chercheurs, puisque ce sont les postdocs, l'équivalent des postdocs, c'est-à-dire ceux qui viennent d'être recrutés, ceux qui ont pas encore un statut titulaire, qui sont le cœur de cible. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ça la question fondamentalement, c'est d'abord que les institutions européennes n'attendent pas comme ça la fin du mandat de Trump pour se réveiller, c'est-à-dire que c'est maintenant que ça se joue, et donc il faut se mobiliser à l'échelle européenne, parce que ça se joue pas simplement à l'échelle nationale.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les chercheurs américains, les accueillir peut-être?
Oui, c'est ça.
Voilà, le sociologue Michel Dubois sur notre antenne, c'était en mars dernier. Laurent Simon, depuis mars, Donald Trump n'a pas arrêté justement son démantèlement des institutions scientifiques.
Non, il y a eu un moment de sidération, je crois, légitime, à partir du 20 janvier de son investiture. Alors, en réalité, c'était un tout petit peu prévisible, quand on se rapporte à 2017, hein, il y avait déjà eu des premiers coups de semonce, la sortie de l'accord de Paris notamment, qui avait provoqué un premier projet qu'on a appelé Make Your Planet Great Again à l'époque. Donc, avec aujourd'hui alors assez peu de chercheurs qui sont arrivés. On parle de d'une quinzaine de chercheurs qui se sont installés définitivement en France. Mais voilà, le 20 janvier, il s'est passé ce qui s'est passé, des signatures de décrets à la va-vite. C'était plus pensé que la première fois. C'est ça qui a surpris tout le monde. Ce qui a généré une sidération qui a duré quand même un bon mois et demi, voire deux bons mois, à la fois en France, mais aussi au niveau européen. Et c'est aujourd'hui, là on est le 5 mai, et c'est aujourd'hui qu'on discute de tout cela, parce que ce matin même a eu lieu en Sorbonne, comme on dit, la première conférence, alors on va dire européenne, je vais vous expliquer à peu près comment ça va se dérouler en réalité, que la France et l'Europe ont voulu appeler Choose Europe for Science. Alors il y a deux dispositifs qui ont été lancés ce matin. Il y a Choose France for Science. On connaissait Choose Science et on connaissait France Travail. Maintenant on a Choose France for Science et Choose Europe. Alors la concomitance des deux c'est pas un hasard. Évidemment la France veut attirer tout ça c'est de la real politique. On n'est pas l'intitulé de notre conversation, c'est France terre d'asile, mais la France est une terre d'asile, on pourra en parler tout à l'heure. Mais là, on est plus dans une forme de mercato à l'échelle mondiale, de scientifiques, particulièrement américains, mais le propos est plus large. On peut aussi penser aux scientifiques argentins, notamment. C'est pour ça que le propos un peu institutionnel est un peu plus large que l'Amérique pure. Enfin, les Amériques, pardon. Hein. Je devrais dire États-Uniens, d'ailleurs, pour dire, au lieu de dire Américains, je l'ai promis à un ami. Et je vais essayer de me corriger pour le reste de cet échange. Et donc, ce matin, là, le lancement conjoint d'à la fois Choose Europe et Choose France. Alors, c'est de l'argent, évidemment, et bien d'autres choses.
Mais justement, quels sont les contours de ces rencontres qui ont eu lieu ce matin en Sorbonne?
Alors, ce matin, à la Sorbonne, c'était donc Choose Europe for Science. Bon, on peut citer deux, trois chiffres d'abord, hein, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais c'est important de le rappeler. La France, pour son propre programme, a annoncé une centaine de millions d'euros à peu près. Je vous explique à peu près de quelle manière ça se déroule, parce qu'il y a toujours des petits alinéas qui font que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on veut bien en penser tout de suite, même si c'est une excellente chose que la France mette de l'argent sur la table. L'Europe, ayant une taille supérieure, annonce 500 millions d'euros, dont on sait qu'une partie seront destinées à des bourses, des jeunes chercheurs, ce qu'on appelle les actions Marie Curie, notamment, au niveau européen. Si on revient au niveau français, alors la France, terre d'asile, oui et non. Alors, elle est terre d'asile parce que certains programmes ont cette fonction d'asile scientifique. Je pense notamment au programme PAUSE, qu'héberge le Collège de France, dans lequel à peu près 600 chercheurs sont, et artistes, hein, il n'y a pas que des chercheurs, sont passés durant toutes ces années. Il y a aussi évidemment des universités qui proposent des asiles, des retraites à destination des gens, des personnes, chercheurs, chercheuses dont l'intégrité physique est menacée. Là, on n'est pas encore, j'ose même pas dire encore, mais peut-être pas encore dans cette situation-là aux États-Unis. Donc le choix qui a été fait donc avec Choose France for Science, c'est d'accueillir des chercheurs, des chercheuses, mais pas n'importe lesquels. Alors c'est là où, dans cette éclipse un peu totale, l'alignement des astres entre la politique de recherche, la politique tout court, même la géopolitique, hein, puisque là, personne ne se cache du fait qu'il s'agit en réalité de rattraper la Chine et les États-Unis dans une grande course mondiale. La France a fait certains choix, donc elle accueillera, enfin elle financera mieux, on va le dire comme ça, des chercheurs. Je vais vous citer les différentes disciplines qui sont visées, donc santé, climat, biodiversité et société durable, le numérique, l'intelligence artificielle, les études spatiales, l'agriculture, l'alimentation durable, j'ai bientôt fini, forêt et ressources naturelles, énergie, décarbonée, les composants, systèmes et infrastructures numériques. Alors, si on se place dans une disposition qui est accueillons les chercheurs américains comme un asile scientifique, c'était d'ailleurs l'objet d'une proposition de loi qui a été déposée récemment par François Hollande.
La premier projet de loi en tant que député pour François Hollande, d'ailleurs, le 17 avril dernier, sur en effet un texte qui propose un vrai statut spécifique aux réfugiés scientifiques. Mais pardon, je vous laisse poursuivre, Laurent Simon.
Non, pas de souci. Le texte est intéressant dans la mesure, alors on ne sait pas aujourd'hui s'il passera, ce n'est qu'une proposition de loi. Il faut qu'il soit porté, il faut qu'il soit accepté, il faut qu'il trouve une petite niche parlementaire pour être voté. Donc ça, l'avenir le dira, et on le suivra dans Metanews. Ce que je voulais dire par là, c'est que si on raisonne en termes d'asile, on comprend évidemment que des chercheurs dans la santé, aujourd'hui, sont menacés, quand ils font des études populationnelles, des études sur les vaccins ARNM, qui n'ont pas la faveur de Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé, la biodiversité, société durable, évidemment. Mais il manque à cette liste des chercheurs en sciences sociales qui, aux États-Unis, sont quand même, pour le coup, la cible directe d'une guerre contre l'université qu'a lancée Trump, mais aussi son vice-président J.D. Vance, qui l'a dit. Hein, il a dit l'université est l'ennemi. Voilà, c'était très clair.
Oui, avec toute une série, une liste de mots interdits pour les chercheurs, avec des études annulées, des financements aussi supprimés, si ces mots font partie du corpus de recherche. Vous évoquez, Laurent Simon, cette somme, hein, une centaine de millions d'euros pour le programme Choose Friends for Science. Alors comment, avec quel financement? Est-ce qu'on sait ça aussi, comment va se mettre en place cette aide?
Oui, on a quelques détails aujourd'hui, en partie parce que c'est assez calqué sur le programme de 2017 Make Your Planet Great Again. Donc c'est un cofinancement en fait. Les 100 millions, donc ça vient des poches profondes de l'État, ça s'appelle France 2030, donc c'est de ce qu'on appelle de l'extra-budgétaire, c'est qu'en gros, tout le monde a compris qu'on était en disette budgétaire, mais il y a quand même France 2030 qui permet de donner de l'argent quand le politique juge que c'est nécessaire. Donc c'est le cas là avec France 2030. C'est cette centaine de millions vient d'ici avec les critères quand même que je vous évoquais juste avant, c'est-à-dire que les sciences sociales a priori, à moins qu'elles ne traitent de climat par exemple, ne sont pas foncièrement les bienvenues quand il s'agit de les faire cofinancer dans ce programme. Donc ce sera la charge des établissements de faire financer l'autre moitié ou de financer l'autre moitié. Mais si, par exemple, ils veulent accueillir des chercheurs en sciences sociales ou en humanité, ce qui est l'Université de Toulouse, par exemple, qui a lancé, comme d'autres établissements, des programmes d'accueil, ils devront certainement le payer de leur poche. Voilà, ce sera à voir dans les semaines à venir.
Par rapport justement aux universités, on a cette idée qui a été lancée par l'université justement d'Aix-Marseille et son président Éric Berton, l'initiative Safe Place for Science également.
Oui, c'est une initiative qui a fait florès. Alors, Aix-Marseille Université a tiré les premiers, j'ai envie de dire, avec très tôt la diffusion d'un programme d'accueil de chercheurs exclusivement américains, pour le coup, hein, Choose Friends, c'est un peu plus large. En tout cas, ils ne veulent pas le restreindre aux États-Unis, pardon, pas aux Américains. Et quand on avait interviewé Éric Berton, il citait le chiffre, c'était déjà il y a un mois de cela, donc ça a beaucoup augmenté. 150 chercheurs américains qui toquent à leur porte, qui avaient toqué à leur porte, beaucoup en sciences du climat, beaucoup en humanité aussi, hein, faut le signaler, donc en sciences humaines. Pour au final, alors c'est là où ensuite la France se mesurera aux autres pays, pour au final, en ce qui concerne Marseille, à peu près une quinzaine de places, voilà.
Et en effet, par rapport à Marseille, on a une quinzaine de places avec des arrivées de chercheurs qui sont attendues début juin. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous évoquez en effet la campagne Make Your Planet Great Again, lancée par Emmanuel Macron en juin 2017, suite aux propos de Donald Trump et sa décision de sortir de l'accord de Paris. C'est une initiative qui a quand même réuni 43 chercheurs, 12 Américains, dont 12 Français, pour la plupart en poste aux États-Unis. Alors finalement, la question, c'est est-ce que la France attire-t-elle vraiment tant que ça les Américains en exil, Laurent Simon ?
Alors, c'est une bonne question. La question, c'est pourquoi elle les attirerait, en fait. C'est la question qu'on a envie de se poser. La France a d'excellents chercheurs. La France a d'excellentes infrastructures de recherche. Elle n'est pas en pointe sur certaines choses. Évidemment, c'est pas un hasard si parmi les chercheurs que la France souhaite accueillir dans Choose Friends for Science, il y a de l'intelligence artificielle, de l'espace. C'est parce que on a aussi des choses à aller prendre aux États-Unis. C'est pour ça que je parlais de mercato tout à l'heure. C'est un peu trivial, mais bon, ça décrit bien quand même cette science qui est une science globalisée, hein, qui est une science mondialisée, qui est une science aussi de compétition. Et est-ce que la France est attirante? C'est ce que j'entends dans votre question. Oui, alors je pense, peut-être pas pour les raisons qu'on pense au départ. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils veulent partir sont des gens, alors c'était ce que vous montrez votre archive et c'est ce que nous ont dit certaines personnes, c'est des gens qui ont souvent un lien avec l'Europe. Alors ça peut être une thèse en Europe, par exemple, ou une première expérience, voire un conjoint ou une conjointe. Parce que quand on demande à un chercheur ou une chercheuse de venir, c'est une famille souvent à qui on demande de déménager. Donc c'est pas totalement évident de se projeter là-dedans quand on a fait sa carrière aux États-Unis ou ailleurs. Voilà. Mais la France a des arguments. Au-delà de la Tour Eiffel, il y a le modèle social, qui pour les Américains très exotique. Voilà.
Mathilde Fontaine sur cette question.
Ouais, je voulais juste rebondir pour parler de ma sidération. On partage tous cette sidération, mais du moment qu'on vit, hein, qui est quand même assez hallucinant à tous les points. Moi, par exemple, je peux témoigner d'un. Donc évidemment, comme tous mes confrères autour de la table, j'imagine, on a tous des chercheurs américains au téléphone régulièrement qui tous nous disent qu'ils peuvent plus parler de certaines choses, qu'ils sont obligés qui vivent beaucoup plus dans la crainte, même ceux qui ne sont pas en train de partir sont en train de moduler leur discours, qui sont dans l'incertitude de leur financement à venir pour des projets. Il n'y a pas qu'une censure, on va dire, éditoriale de la science. Il y a une censure budgétaire tellement massive. Et donc là, la dernière nouvelle que moi j'avais reçue et que j'ai ressorti le mail pour pouvoir vous le lire, c'est en résumé, Mars Sample Return, qui est la mission de retour d'échantillons sur Mars à laquelle collaborent donc la NASA et l'ESA, il y a marqué juste annulé. SLS et Orion, ça c'est la grosse fusée qui doit envoyer les prochaines missions Artemis et sur laquelle collabore aussi l'Agence spatiale européenne. Annulé après 3 vols. La Gateway, c'est cette station en orbite autour de la Lune qui est en projet depuis 10 ans et qui aussi est une collaboration avec l'Europe. Annulé. Landsat mission, ce sont les prochains télescopes qui vont surveiller pour le climat depuis l'espace. On va l'annuler. Climate monitoring satellite, donc les satellites de monitoring du climat annulés. Enfin, c'est ce genre de liste en fait qu'on est en train. Donc je fais pas la fin, mais c'est ce genre de liste qu'on est en train de recevoir nous les journalistes un peu sidérés, que évidemment les chercheurs au premier chef voient, avec le démantèlement de toutes les collaborations qui pouvaient avoir lieu entre l'Europe et les États-Unis. Et qui, en fait, la science s'est construite comme ça en Europe aussi, par ses collaborations et par un appui permanent entre les deux. Et c'est ça qui se démantèle. Donc après, est-ce que la France peut, ou l'Europe, tirer son épingle du jeu en essayant d'accueillir et d'être à l'initiative désormais? Espérons-le. Mais c'est quand même, pour l'instant, juste la fin d'un truc, quoi.
Olivier Lascar, pour conclure.
Symboliquement, c'est très important. C'est très bien que la France et l'Europe fassent ça, mais on peut quand même être étonné par les poches profondes que vous disiez tout à l'heure, parce que quand même, les chercheurs en France ont des financements qui sont mauvais depuis des années et des années. Donc, quand à certains moments comme celui-là, on a l'impression qu'il y a une forme d'argent magique qui peut être trouvé en un claquement de doigts, il y a quelque chose au niveau du récit qui passe pas, quoi.
Argent magique, c'est exactement les mêmes mots qui ont été prononcés lors de notre émission que nous avons consacrée de pourquoi Donald Trump massacre-t-il les sciences, un podcast intitulé Trump et les sciences, un climat étouffant. On vient de vous poster le lien et ce sera donc notre mot de la fin. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir accepté d'être nos invités. On écoute la chronique d'Alexandra Delbo et on continue de faire ce tour d'actualité scientifique. On plonge dans les abysses avec la chronique Avec Science.
Comment des plongées profondes ont-elles permis d'observer un sélacanthe en milieu naturel? Ce sont des animaux assez uniques, avec une biologie hors du commun. Ces poissons de près de 2 mètres peuvent vivre un siècle, atteignent leur maturité sexuelle autour de 55 ans, et leur gestation est la plus longue du règne animal. Il faut 5 ans pour faire un petit. Si on devait les comparer morphologiquement, on pourrait voir certaines ressemblances avec les mérous, mais d'un point de vue évolutif, ils sont bien plus proches de nous, vertébrés, que de ces poissons modernes, et c'est ce lien phylogénétique qui en fait des modèles précieux pour la biologie de l'évolution. Alexis Chapuis est biologiste marin de formation et plongeur. Il a fondé l'association UNSEEN, dédiée à l'exploration, l'étude et la conservation des écosystèmes coralliens mésophotiques, là où vivent les sélacanthes.
Le groupe auquel ils appartiennent a permis la sortie des eaux, si vous voulez. C'est chez ce groupe, donc, qui est les sarcoptérygiens, que serait apparue la main. Donc, la main est apparue en milieu aquatique et c'est grâce à cette main, entre autres, que la terrestrialisation, la sortie des eaux a pu s'effectuer. Donc, c'est des animaux qui ont toujours été un peu considérés, peut-être à tort, comme le maillon manquant de cette sortie des eaux. Et en fait, on pensait que ces animaux étaient éteints depuis 70 millions d'années. Et en 1938, il y a un spécimen qui a été remonté vivant dans les filets de pêche au large de l'Afrique du Sud. Et ça a fait sensation à l'époque, puisque au niveau de l'histoire naturelle, ça a été considéré comme la plus grande découverte scientifique du XXe siècle.
Petite précision, on trouve à droite et à gauche le terme de fossile vivant. Alors attention, c'est un parfait non-sens et ça hérisse les poils des biologistes de l'évolution. Les espèces fossiles ont bien évidemment disparu. En revanche, il y a des représentants actuels, des sélacanthes qui ont morphologiquement assez peu changé par rapport à certains de leurs ancêtres. C'est ça qui crée parfois la confusion, mais il y a bien eu une évolution entre les espèces anciennes et actuelles. Et il y a deux espèces actuelles. Une que l'on retrouve en Afrique, et une autre autour de l'Indonésie, l'Antimeria menadoensis, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et contrairement à sa cousine africaine, elle a très peu été observée en milieu naturel. C'est tout l'objet d'un projet mené depuis plusieurs années par des scientifiques, identifier les milieux favorables et mener des plongées très profondes pour tenter de rencontrer l'animal. C'est pire que de chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'est ainsi qu'a été aperçu pour la première fois un sélacanthe dans l'archipel des Moluques en Indonésie, un matin d'octobre 2024. Alexis Chapuis est aussi le premier auteur de cette nouvelle étude parue dans Scientific Reports, réalisée par des scientifiques indonésiens en collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et il nous raconte cette plongée exceptionnelle.
Nos plongées, on était déjà dans une routine d'expédition. On faisait une plongée profonde. On peut faire qu'une plongée par jour. Hein, donc, faut bien comprendre aussi que c'est une plongée par jour. À 140 mètres de fond, vous passez 10, 15 minutes. C'est 4 heures, 4 heures et demie, 5 heures de décompression derrière. En fait, par jour, vous explorez pendant 15 minutes le site qui vous intéresse. Donc, imaginez 15 minutes pour trouver une espèce aussi élusive. C'est extrêmement difficile. La rencontre, elle s'est pas faite le premier jour. On a fait la plongée sur ce site-là, en fait. Avec mon binôme Julien Leblon, on est descendu à 125 mètres de profondeur. Et ça a été un déclic pour moi. Et je me suis dit, s'il y a un site où on doit trouver du sélacanthe, ce sera ici. Et donc, avec mon binôme Julien, on a discuté, on a dit, voilà, fallait refaire une plongée sur ce site, mais une plongée cette fois plus profonde. Et le surlendemain, on est retourné sur le site et on est descendu à 152 mètres de profondeur. Et sur la remontée, en fait, il y avait une roche assez grosse. Et là, je suis tombé effectivement nez à nez avec cet animal majestueux. Et là, c'est vraiment comme un rêve, en fait. C'est quelque chose, on n'y croit pas, quoi.
C'est la toute première fois que cet animal, cette espèce, est photographiée par des plongeurs. Après 5 minutes de face à face et quelques clichés pour l'identifier précisément, il fallait déjà remonter. Ils retrouveront le même individu le lendemain, au même endroit, le lieu exact est tenu secret, pour éviter toute forme de tourisme ou de braconnage, en attendant la mise en place d'une aire marine protégée, car bien qu'ils vivent en profondeur, ce sont des animaux menacés par la pêche, la pollution plastique et le changement climatique. La reconnaissance de leur habitat ouvre la voie à une meilleure conservation de cette espèce, déjà classée vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, et cette protection permettra de préserver les autres animaux marins, moins emblématiques mais tout aussi essentiels, qui partagent ce milieu fragile.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Lou Anger, Alexandre Morales, Loïc Dutoit. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.